Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le bunker, mais peut-être que c'est aussi un dans le viseur, parce qu'on va raconter, on va voir que c'est une expérience assez éprouvante qui a été vécue pour donner lieu à cette émission, c'est une expérience tout à fait... On est monté au front, on peut le dire, pour pouvoir produire cette émission. Donc, dans le bunker, qui est consacré habituellement aux films ou aux séries, consacré aux faits militaires en général et à la guerre à tout le moins. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de recevoir deux invités, Anaïs Meunier, productrice des podcasts multiples, mais notamment Signal sur Bruit, l'ancien podcast du CDEM, désormais le podcast de la revue Ami du collimateur Inflexion, et d'un nouveau podcast intitulé Les fils de la bagarre, les fils de la bagarre, j'imagine.
Je ne savais pas dire Fred en anglais, donc j'ai dit les fils de la bagarre.
Oh, l'ambiguïté est pas mal. Qui sont disponibles évidemment sur toutes les plateformes. Bonjour Anaïs.
Bonjour Alexandre.
Et Thomas Edoux, Thomas, journaliste au service vidéo du Monde, notamment. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur, puisque c'est votre premier passage.
Bonjour, merci pour l'invitation.
J'en profite, ça me permet de dire au passage ce que j'ai déjà dit ici ou là, que les vidéos du Monde, notamment sur tous les sujets qui touchent à la guerre et aux faits militaires, sont vraiment remarquables. La chaîne YouTube est extrêmement bien faite dès que ça touche à ces sujets-là. Ce sont des vidéos qui sont à la fois très bien illustrées et très bien informées et dont je me sers très régulièrement pour préparer des émissions. On est donc aujourd'hui ici pour parler d'un film qui est une expérience qui sert aussi à montrer qu'on n'est pas sectaire dans les chefs-d'œuvre, qu'on ne fait pas que des chefs-d'œuvre français et américains dans le collimateur, mais qui est donc un film russe intitulé Touriste, film qui est sorti cette année, qui a été tourné assez récemment, qui aurait été tourné entre 2020 et 2021, film d'Andrei Batov, son vrai nom Andrei Tcherbinin, je suis désolé, ma prononciation russe est vraiment déplorable, qui est un film, comment le décrire, qui est un film, disons, qui parle de la convergence de personnel militaire ou paramilitaire russe sur un théâtre africain, en l'occurrence la République centrafricaine. Alors, je veux dire que c'est pas forcément un choix évident, puisque d'habitude, on a plutôt l'habitude de faire des bons films dans ce format, mais c'est un film qui est quand même très intéressant. J'ai profité, à vrai dire, j'ai sauté sur l'occasion, parce que j'ai vu, vous avez notamment publié tous les deux sur Twitter, que vous regardiez le film, donc je me suis dit, autant en faire une émission. Je me suis dit, bon, bah, je vais le regarder aussi, et de fait, j'ai pas été déçu, parce que c'était... disons que c'était un moment, c'était pas un bon moment, mais c'était un moment. Mais alors, puisque c'est vous qui avez été à l'initiative de ça et que vous m'avez entraîné dans cette galère, expliquez-moi l'un et l'autre ce qui vous est passé par la tête donc de regarder ce film Touriste sur, disons, la Russe-Afrique.
Alors, comme c'est moi qui ai initié la chose, je pense que je vais répondre. Et je m'en excuse platement parce que c'est, il faut le dire, un très très mauvais film de propagande. Voilà, posons les mots, c'est exactement ça. Et en fait, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'on était plusieurs à vouloir voir ce film, notamment avec Yuan Michel, qui est déjà passé dans le collimateur, parce que forcément, ça parle de la Russie et de l'Afrique. Et ce qui est super intéressant... Non, pardon, on a dit que c'était pas intéressant, en fait. Mais il faut savoir que le matériel qui a été utilisé pour tourner le film, c'est du matériel qui appartient à la société Wagner. Plein d'éléments qui sont arrivés de Syrie, des choses comme ça. Et donc, de fait, les gens, enfin Thomas, Edou, Johan Michel, étaient intéressés par l'aspect un peu osint derrière, en disant, bah, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur du film, quel matériel utiliser, ce genre de choses.
Alors, on va rappeler, peut-être, on a fait récemment une émission avec Emmanuel Dreyfus et Maxime Audinet sur cette question de la présence russe en Afrique, évidemment, qui est, bon, on a pris plus d'une heure pour le faire, donc c'est, évidemment ça donne du fond. Mais rappelons que Wagner c'est quand même une société militaire privée russe, rattachée enfin, sous l'égide disons d'Evgeny Prigogine, qui est un proche de Vladimir Poutine, qui est un peu disons la tête de pont de ces opérations générales d'influence de Russie un peu partout dans le monde. Et on dit, c'est pas clair, c'est pas certain, mais que la société d'Evgeny Prigogine, à travers de multiples prête-noms, aurait probablement financé, voire produit ce film. Alors, Thomas Edou, vous êtes donc dit, c'est l'occasion de voir quel genre de matos ils ont, puisqu'ils décident de le mettre à l'écran.
C'est ça, c'est-à-dire que c'était assez flagrant, en regardant les images du film, de voir à quel point...
Alors on peut dire qu'avant le film, il y avait déjà une bande-annonce que j'avais déjà vue il y a quelques mois qui donnait vraiment envie, disons.
Parce qu'ils sont assez malins.
Ouais.
Visuellement, c'est assez frappant de voir à quel point... en fait, ça ressemble clairement aux images qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, officiels ou non, des instructeurs russes qu'on voit en Centrafrique, en République centrafricaine. Et c'est-à-dire que même leur équipement, leur casquette, leur pantalon, leur gilet tactique, leur arme, leur camion, c'est-à-dire que les deux, l'un côté de l'autre, c'est assez bluffant. Et donc c'était intéressant de voir comment le producteur et le réalisateur s'en servaient pour raconter un récit qui aide bien le Kremlin dans cette action-là, en tout cas en République centrafricaine.
Ouais, alors on va dire que donc vous l'avez vu dans une perspective de ce qu'on appelle l'OSINT. On peut rappeler que l'OSINT, c'est l'Open Source Intelligence, donc le renseignement en open source, qui est ce que vous faites d'ailleurs beaucoup sur les vidéos du Monde, Thomas, c'est-à-dire on prend ce qui est disponible librement sur l'Internet, parce que ça nous apprend quand même des trucs avec un peu de jugeote et des recoupements. On arrive vraiment à des vraies conclusions, notamment sur tout ça. Il y a le côté effectivement purement technique. C'est-à-dire, en le voyant, je me suis dit, ce qui est frappant, c'est que, on l'a déjà un peu dit, c'est un très mauvais film, c'est très difficile à regarder, notamment parce que c'est atrocement doublé. Alors, on peut dire qu'ils l'ont clairement pas fait pour l'argent, parce que c'est disponible très librement sur YouTube, si certains auditeurs courageux veulent s'aventurer à regarder ça.
C'est beaucoup vu sur YouTube. Plus de 800 000 vues sur Afrique Média.
Et j'ai vu que c'était non seulement en français, mais c'était aussi doublé en sango, qui est donc un dialecte, une langue parlée en Centrafrique. Donc il y a des films qui sont intéressants pour ce qu'ils montrent, pour ce qu'ils racontent, pour ce qu'ils disent de la guerre. Ça, c'est quasiment un film qui est intéressant pour ce qu'il est, pour la manière dont il a été produit et pour le public à destination de qui il a été produit. Alors est-ce que vous pourriez peut-être, dans un premier temps, nous raconter l'histoire, si vous vous en sentez capable, parce que c'est difficile, au bout d'un moment, même moi j'ai oublié, mais quel est, disons, le cœur de l'intrigue qui fournit le prétexte à tant de démonstrations de force de la part de ces troupes pararusses, disons.
Il y a des instructeurs russes qui sont appelés à la rescousse en République centrafricaine, et qui viennent, je raconte le film, hein, pas la réalité, le film, et qui viennent... officiellement pour prêter main forte sans combattre aux forces armées locales. Y a un personnage principal qui va être un peu le fil rouge finalement de tout le film, qui est assez long, le film.
C'est le temps réel est long et le temps ressenti est incroyablement long.
Oui, je pense que c'est un facteur de 3 en termes de... On finit le film, on a l'impression d'y être passé...
Je pense qu'il faut dire que nous, on a bu beaucoup d'alcool pendant le visionnage parce que c'était la seule manière de supporter en fait un petit peu ça. Je pense que vous n'avez pas eu l'occasion de le faire.
Non, moi je me le suis fait par tranche d'un quart d'heure parce que plus c'était vraiment très très difficile à regarder. Voilà. Mais bon, alors continuons. C'est donc des paramilitaires russes qui sont des instructeurs pour les forces armées centrafricaines. On peut dire que ça c'est tout à fait vrai. On sait que depuis 2017-2018, la Russie envoie des formateurs, mais alors c'est des formateurs qui sont pas évidemment de l'armée russe, qui sont de Wagner, mais qui sont un peu... voilà, qui ont une affiliation militaire plus ou moins directe, comme la Russie le fait souvent. Et là, donc, insurrection, et les Russes doivent mettre les courageux Russes doivent mettre la main à la pâte pour aider les forces armées centrafricaines à... défendre leur territoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'abord la vision des Russes, Et puis, par ailleurs, ça présente une vision qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, de la Centrafrique, de la France aussi. Et éventuellement, d'ailleurs, il y a aussi une représentation très intéressante des forces armées tchadiennes qui est pas négligée.
Alors, des forces de sécurité de l'ONU aussi, qui apparaissent à un moment et qui ont un rôle d'observateur.
Alors comment est-ce qu'on pourrait caractériser ce regard? C'est-à-dire, c'est quoi la narration qui est déployée par tout ça, Anaïs Meunier?
L'idée, c'est quand même de suivre le personnage principal, surnommé le touriste, parce que c'est la première fois qu'il débarque en Centrafrique, et donc il arrive comme un touriste, c'est un bleu en fait, et c'est de suivre son parcours à lui, à la fois à l'intérieur des forces, enfin à l'intérieur de Wagner, pour savoir quelle place il va prendre, parce qu'au début c'est un ancien policier, on sent qu'il y a une histoire autour de la police corrompue, etc., alors que la SMP, enfin les forces de Wagner, c'est des vrais hommes, des héros, des gens qui vont jusqu'au bout, et donc lui va grandir en fait à travers cette histoire et sauver la population, sauver les hommes et les femmes des forces armées centrafricaines et aider à sauver les élections présidentielles qui grâce à eux auront lieu à la fin en fait.
Thomas Edou.
Et oui, et en fait ça légitime aussi un narratif qui n'est pas forcément avoué dans les discours officiels russes, mais qui, sous couvert d'un film qui se veut à la limite entre la fiction et le documentaire, avec le message qui est passé dans le film documentaire, qui est un gros sous-entendu, qui est sans les instructeurs russes, qui se retrouvent en fait obligés de combattre, ils sont devant le fait accompli, donc ils sont obligés de combattre, et ils arrivent à stopper les hordes de bandits slash rebelles qui viennent du Nord. Ce discours-là, en fait, ça permet aussi de légitimer une action qui n'est pas clairement avouée par les officiels russes. Et je pense que c'est une des clés, enfin, c'est en tout cas une perspective importante qu'il ne faut pas négliger quand on regarde le film.
Alors moi, en regardant le film, je me suis demandé pour quel public est-ce que c'était ? C'est-à-dire, pour un public centrafricain, ce que pourrait indiquer le fait que le film soit librement disponible sur YouTube. C'est compliqué, hein, parce que c'est très raciste, très cliché, les forces armées centrafricaines sont complètement incapables, corrompues,
elles sont faibles, elles ont peur, elles fuient en fait à un moment donné, et c'est pour ça que Wagner reprend la main, c'est parce qu'elles n'ont pas été capables de tenir, je sais plus, c'était Bangui ou c'était un autre fort quelque part.
Enfin bon, peu importe, même la géographie est un peu hasardeuse.
Il y a quand même des endroits, il y a deux endroits qui ont été filmés dans des vrais. Il y a le palais de Berengo et il y a un autre lieu où il y a eu au départ c'était Sevo Security Services et ensuite des instructeurs où on n'a pas pu les reconnaître mais qui ont vraiment formé sur place les forces armées centrafricaines. Il y a des scènes du film qui ont été tournées dans ce même endroit-là et il y a aussi un autre endroit au nord-est de Bangui, où aussi on a vu des images, cette fois-ci officielles, d'instructeurs russes, et il y a des scènes du film qui ont été tournées aussi à ce même endroit-là.
Et on peut simplement ajouter qu'à un niveau peut-être moins macro, moins large, mais plutôt à l'échelle des personnages qui sont représentés, alors il y a évidemment le héros, ce touriste, mais il y a aussi pas mal de monde autour, et c'est un film qui représente au fond pas mal de militaires russes, relativement divers, qui expose des plans. Alors bon, je suis pas spécialiste en tactique d'armée de terre, mais enfin, je suis pas un spécialiste de ces questions-là. Mais enfin, ils ont l'air relativement compétents sur ce qu'ils exposent. Et bon, voilà, on se demande si c'est pas au-delà de ce touriste, effectivement, qui est un peu un bleu dans cette affaire-là, si c'est pas aussi un portrait du paramilitaire russe, de son savoir-faire et de sa compétence sur tous les terrains du monde, qu'on cherche un peu à dépeindre d'une manière ou d'une autre.
Oui, effectivement. Moi, je l'ai lu dans une enquête et ça m'a semblé très réaliste, notamment dans une scène du film. Donc, j'ai lu que des des vrais éléments de la SMP avaient joué dans ce film-là. Et effectivement, il y a une scène où
c'est toujours moins cher que de faire venir des acteurs russes en Centrafrique.
Oui, déjà, ils sont sur place, ils sont dans les locaux avec le matériel, etc. Puisque, dans la même enquête, ils disent justement que le matériel qui est utilisé, c'est exactement le matériel de la SMP. Donc,
puis on ne les prendra pas en défaut de ne pas savoir manier une arme.
Si c'est
des vrais mercenaires de
Wagner. Et même le comédien dit que c'est eux qui les... Il a été formé par eux, donc il sait normalement bien la manier exactement. Et il y avait un topo qui était fait, un topo tactique à un moment donné, et c'est vrai que la personne qui parle, on ne dirait pas un comédien. Moi, j'ai revu un type d'une armée de terre qui fait un topo tactique en disant ce qui va se passer, et dans sa posture, dans le ton de sa voix, dans sa présence dans cette scène-là, c'est pas un comédien, c'est vraiment un type de Wagner, à mon avis.
Thomas Hédou ?
Dans le film, on se rend compte aussi à quel point ils semblent bons, ils sont tactiquement très bons, ils ratent peu de choses, et ça omet aussi des difficultés. Enfin, ça omet visiblement volontairement des difficultés que le groupe aurait pu avoir dans certaines zones. On sait qu'ils ont eu des difficultés en Syrie, au Mozambique aussi. En Libye, ça a été compliqué. Et bizarrement, le film les montre sous un aspect où tout ce qu'ils entreprennent, ils réussissent. Ce qui est parfois sur le terrain un peu plus compliqué, quoi.
Alors du coup, je repose ma question à laquelle on n'aura pas de réponse, je pense, mais on peut y réfléchir ensemble, parce que pour un public centrafricain, c'est problématique. Pour un public français, n'en parlons pas, parce qu'il y a un Français, il est absolument diabolique, c'est l'incarnation de la France-Afrique, et il coordonne quasiment des massacres depuis son confort français. Je me suis dit, la seule solution, c'est peut-être que c'est à destination de Russes, ce qui expliquerait que ce soit, que ce soit doublé aussi atrocement en français. Peut-être qu'en russe, ça passe. Peut-être que si on comprend pas le français, c'est moins mauvais comme film. Mais bon, par ailleurs, c'est pas inintéressant. Je me suis dit aussi que c'était pas mal filmé. Enfin, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est pas des films d'action pourris qui parlent de la guerre, on en a un paquet, mais c'est pas un film de Steven Seagal des années 90, quoi. Il y a des images qui sont assez propres, le jeu d'acteur est abominable, mais si on parle pas français, peut-être que c'est pas si gênant. C'est pas moche.
En même temps, les acteurs francophones sont excessivement mauvais.
Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est... Thomas Hédou ?
Non, je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été investis, et je pense qu'en fait ça se voit. Après, c'est pas moche, si on aime les gros films d'action, les super productions, c'est pas moche. Si on aime les films qui ont de la nuance, c'est de suite un peu plus compliqué à regarder. Mais
c'est filmé comme du Michael Bay en fait, avec des plans très très courts, avec une action, un plan, une action, et ça reste très peu de temps sur chaque élément en fait.
Ouais, mais il faut être capable de le faire, du Michael Bay, c'est pas si évident quoi. Je veux dire, ça demande des moyens, ça demande un certain temps de tournage, c'est pas un film qui a été fait avec 3 francs 6 sous dans un coin, ce qui veut dire qu'il y a un investissement et que du coup il y a un projet quoi. Alors...
C'est un film qui a aussi été diffusé en Russie, et donc on en revient un petit peu au fait de légitimer un discours ou de légitimer des actions qui sont pas clairement établies officiellement par la Russie. Et en légitimant...
Donc alors on peut dire que ça a été diffusé 2 fois, d'abord en avant-première le 15 mai 2021 devant plusieurs milliers de spectateurs au stade Boganda de Bangui, et ensuite ça a été diffusé effectivement sur une chaîne d'État NTV, en Russie. Donc c'est bien l'idée que ça peut plaire un peu à tout le monde, mais en tout cas, il y a la volonté de faire un discours à destination des Russes, quoi, pour légitimer peut-être la présence et les investissements croissants de la Russie en Afrique.
Il y a aussi l'idée que derrière, ils essayent de recruter, parce que la SMP Wagner a plus de mal à recruter du personnel, et le fait d'incarner ce héros qui a tout un parcours et qui, à la fin du film, dans les dernières minutes, il est dans un bar à Moscou, on voit que le président centrafricain a été réélu dans de bonnes conditions, que la paix est arrivée, il est très fier de lui, et dernière image, il remonte dans un avion pour repartir en Centrafrique parce qu'il se réengage en fait. Et donc il y a peut-être cette idée derrière de dire engagez-vous dans Wagner, vous serez des héros.
Je pense que ça fait partie aussi d'une stratégie qu'on peut appeler de guerre de l'information, qui reste une stratégie d'influence, qu'elle soit tactique, militaire et informationnelle. Et j'imagine qu'au plus on s'accapare des espaces, donc l'information, la stratégie, ça permet de laisser moins de place à d'autres personnes qui voudraient reprendre la main sur la situation sur place. On peut ajouter qu'il y a d'autres films de ce style-là qui vont sortir, enfin en tout cas d'autres super productions russes. Il y en a un qui va sortir sur les aviateurs russes en Syrie, sur leur dernière campagne en Syrie. Il y a cette série en Libye qui a été tournée et dont on a vu les premiers trailers sortir. Et visuellement, c'est encore une fois, c'est la même chose, ce sont des super productions. Et on voit qu'il commence à y avoir une certaine cinématographie russe qui se développe autour de ces sujets. Et qui semble donner en tout cas de ce qu'on peut pour l'instant en voir, qui narrativement raconte peu ou prou la même chose, c'est une Russie qui sait combattre et qui est présente de partout.
Je ne peux pas garantir qu'on va refaire à chaque fois une émission sur chacune de ces super productions russes, parce qu'on a compris que c'était pas incroyable non plus, mais en tout cas, clairement, il semble y avoir une offensive, en tout cas au moins en Russie, et puis il faut voir, ce sera intéressant d'ailleurs de voir jusqu'où ils cherchent à diffuser ce genre de film, puisque après tout, quand il y a des blockbusters américains qui magnifient le rôle de l'armée américaine, généralement ils sont diffusés partout dans le monde. Il faudra voir s'il y a le même genre de tentation pour ce genre de production émanant de la Russie. Donc, on l'aura compris, on recommande, disons, modérément ce film touriste, sorti en quelque sorte en 2021, réalisé par Andrei Batov, qui est librement consultable sur YouTube. C'est pas... Enfin si, c'est assez déplaisant, mais c'est pas... Ça se laisse regarder dans une certaine mesure parce que c'est intéressant, parce que effectivement il y a des moyens, parce que effectivement ça représente, si ce n'est une certaine réalité de la Centrafrique, au moins une certaine perception russe de la place de la Russie, et on peut-être le mettre en parallèle dans une certaine mesure avec le film chinois qui est touché aussi à l'Afrique, qui était Wolf Warrior 2, dont on a parlé déjà à ce micro avec Pierre Aski. Je pensais pas que je pourrais dire ça un jour, mais Wolf Warrior 2 est un film très 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 supérieur à ce touriste. Mais dans tous les cas, on peut voir qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui disons, diversifient leur prise de position et leurs influences, leur type d'influence en Russie, et que la propagande, en tout cas l'influence par la production cinématographique, fait entièrement partie de tout ça. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Alexandre.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com